pour moi un peu une surprise de découvrir que ce lundi était celui de Pâques. Et je suis assez sidéré de vous retrouver si nombreux et d'autant plus confus, nous sommes tous d'autant plus confus de devoir à chaque fois laisser tellement de cinéphiles à la porte, qui sont donc venus comme vous pour écouter Jean-Louis Comolli. Je voudrais d'abord évidemment le remercier, mais remercier tout autant, puisque cela n'aurait pas eu lieu sans elle, donc Catherine Blanguenet, du service, chef du service audiovisuel de la BPI, qui a conçu ce cycle et qui donc a su visiblement répondre par cette initiative non seulement à son talent mais à vos attentes. Donc la BPI est ici appuyée par les forums de société que je représente du Centre Pompidou, du département du développement culturel. Alors j'ai beaucoup d'annonces à vous faire. La première, c'est de vous engager à prendre... Et on va essayer de faire en sorte, sinon que tout le monde entre, du moins qu'il y ait des retours dans une autre salle pour la prochaine fois, mais donc de prendre le programme maintenant très beau vert olive qui indique que la prochaine séance est le lundi 14 avril, c'est ça ? Voilà. Et le lundi 14 avril. Alors, d'ici là, nous avons aussi beaucoup de rendez-vous cinéphiliques que Jean-Louis acceptera que je vous donne, bien sûr. Il y a donc l'ouverture ce mercredi qui vient du cycle Kiyu Yoshida, qui est très très important puisque c'est un cinéaste très important japonais, bien sûr, mais encore trop méconnu dans le monde en général, en Europe et en Europe sans doute, et donc auquel le centre va rendre hommage. Et nous retrouverons le 22 avril, mais sous un autre versant, à nouveau Jean-Louis Comolli, mais en tant que réalisateur, et réalisateur, même si c'est une catégorie qu'il n'accepte pas vraiment de film documentaire, puisque c'est le dernier épisode, enfin le dernier en date, je ne sais pas si c'est l'ultime, ça dépendra de Godin. Et donc ce sera l'ultime épisode, le dernier épisode en date de la série consacrée au municipal à Marseille et dont le titre est un scoop.
Les clés de Marseille.
Les clés de Marseille, voilà. Et donc, ce sera une avant-première suivie d'un débat avec les auteurs, c'est-à-dire Jean-Louis Comolli et Michel Sanson. Donc, nous allons reprendre maintenant ce cycle. J'avais quand même envie, après la précédente séance à laquelle vous avez tous, presque tous, j'imagine, assisté, et dont le titre, évidemment, m'échappe au dernier moment, mais je le retrouve immédiatement dans le vent mes lunettes, qui était l'homme d'Aran. Oui, mais là, justement, je voulais montrer que je pouvais encore trouver. Donc, je me disais, en dépit de la beauté du film et de la superbe introduction de Jean-Louis, je me disais que quand même, d'une certaine façon, dans sa démonstration qu'il reprend avec des facettes diverses de la vanité des séparations habituelles entre le documentaire et la fiction, qu'il avait eu avec ce film superbe, la part en quelque sorte un peu belle, parce que parmi les films documentaires, qui tous évidemment relèvent d'une construction, celui-ci était particulièrement exemplaire d'une certaine façon, puisque tout est faux, pourrait-on dire, tout est faux vrai ou vrai faux, puisque, comme il nous l'avait expliqué, Le mari et la femme n'étaient pas mari et femme en réalité, l'enfant n'était pas leur enfant, les tempêtes étaient multiples, la pêche, il devait y avoir plusieurs poissons, et de surcroît, ça faisait quelques décennies qu'on ne pêchait plus à ce moment-là. Donc, évidemment, il avait un travail plus facilité pour montrer que les séparations habituelles entre le documentaire et le film de fiction sont à revoir, à revisiter. Et je me disais justement, puisque on parlait des clés de Marseille et donc du dernier épisode de ce documentaire, que quand on filme une élection où l'enjeu est bien réel, où on ne peut pas changer le résultat malgré... Malgré quelques tentations, le choc entre la construction du récit et la réalité qu'on filme et crée une tension plus forte que dans le cas de Flaherty. Donc, c'est sûrement, c'est pas évidemment une objection que je fais, mais un point que je voulais verser au débat avant de laisser la parole sans plus tarder à Jean-Louis.
Merci Roger. Alors, tu me suggères fortement de commencer par ça, par ta question. Voilà. Donc en fait, c'est relativement simple. Il existe un territoire qui s'appelle cinéma, et dans tout ce qui appartient ou relève de ce territoire est à la fois fiction et documentaire. Voilà. On l'a déjà dit, je l'aurais dit volontiers. Le Mépris, disait Jean-Luc Godard, est un documentaire sur le corps de Brigitte Bardot. Tous les films de fiction sont des documentaires sur les corps des acteurs, sur la route qui est ouverte là, sur les nuages qui passent dans le ciel. Donc dans la fonction, dans l'essence même du geste cinématographique, il y a l'idée d'un enregistrement de la réalité qui s'est manifestée devant une caméra et que parfois cette caméra a même accentué ou suscité ou favorisé. Alors ça, c'est la part documentaire qui, d'une certaine manière, et dans tous les films, on pourrait dire que seuls les films de science-fiction ou les films en images de synthèse échappent à ce destin documentaire du cinéma qui se marque dès les premiers films, les films Lumière. C'est pourquoi j'avais commencé ce cycle par les films Lumière. Et parallèlement à ça, on peut dire que tout ce qui est filmé dérive vers le récit, la fiction, l'imaginaire. Filmer, c'est transformer le réel en imaginaire, on pourrait dire des choses comme ça, ou l'imaginaire en réel. Voilà, c'est ce jeu d'échange, de passage entre ces deux ordres, si vous voulez, que nous appelons cinéma et qui se manifeste. Alors, je filme en effet une campagne municipale à Marseille. Bon, en gros, je n'ai pouvoir sur rien. Je ne peux pas changer ni Godin ni Guérini parce que je ne les trouve pas bons ou d'autres seraient mieux à leur place. Donc le réel, comme on dit, enfin on pourra revenir sur cette notion de réel qui est à la fois beaucoup plus précise que ce que j'utilise là et en même temps beaucoup plus vague. La réalité, si vous préférez, s'impose évidemment à celui qui filme. Voilà, en film, comme le disait subtilement Roger Rotman, on ne peut pas changer le résultat, sauf opérer véritablement une imposture complète. Ce qui n'est pas exactement la tâche ou la raison d'être du cinéaste et du cinéma. Alors, néanmoins, moi je prétends que tout ce que j'ai filmé est de la fiction. Voilà, tout s'est réellement passé, mais tout a été, sans qu'on le force réellement, détourné ou retourné ou conduit sur des chemins qui ne sont plus, alors voilà, qui ne sont plus ceux de l'événement en tant que tel, mais du récit qui recouvre ou transforme ou subsume cet événement. Voilà, c'est évidemment, on passe de l'ordre de l'événement à l'ordre du récit. Et peut-être que le récit remplace l'événement ou le fait vibrer d'une autre manière, le fait miroiter d'une autre manière. Voilà. Alors, donc, peut-être l'ai-je déjà dit, mais acceptons comme hypothèse qui nous permet de réfléchir à ce que la façon dont le cinéma fonctionne hier et aujourd'hui, acceptons le principe que la barre de fraction, l'opposition, la rupture n'est pas entre documentaire et fiction, comme on le croit trop fréquemment, mais plutôt entre ce que j'appelle donc le monde du cinéma et le monde de l'information. Alors oui, du côté de l'information, en effet, on ne joue pas avec les événements. On tente de les restituer ou de les raconter ou d'en rendre compte d'une manière aussi sérieuse que possible, aussi peu fantaisiste que possible, aussi proche que possible de ce qui s'est passé réellement. Voilà, le rôle du journaliste est en gros, je simplifie aussi un peu, mais en gros celui-là. Tel n'est pas le rôle du cinéaste. Voilà. Quand je filme quelque chose qui se passe réellement, d'une manière ou d'une autre, par la façon dont la caméra est placée, par la manière dont mon personnage Michel Sanson s'organise par rapport à l'événement, par le fait que je vais mettre off, par exemple, sur d'autres images, une partie de ce qui est dit, ou que je vais opérer du montage dans le son, évidemment, je transforme les choses. Le cinéma transforme la réalité qu'il est en train de filmer. Et cette transformation, comment ne pas lui donner le statut de fiction ? mais fiction avec un grand F, si vous voulez, c'est-à-dire fiction au sens large du terme, toute opération narrative, toute opération interprétative opérée par l'humanité depuis les origines jusqu'à aujourd'hui sur le monde est fiction, fiction au sens fort du terme. Voilà. Alors l'opposition, donc, je le redis, est plutôt entre journalisme ou information et cinéma. Ça, c'est une opposition et parfois même un conflit. Alors, il est vrai que ce qui s'appelle encore documentaire, et nous mettons des guillemets, ce qui s'appelle encore documentaire paraît relever du journalisme. Et oui, souvent, à la télévision, ce qu'on appelle documentaire, ce sont des reportages, c'est-à-dire une forme relativement élaborée de journalisme, mais c'est toujours du journalisme. Voilà. Dans le cinéma documentaire, vous allez en voir un autre exemple ce soir, bah, la réalité est... Ah ben écoutez, si vous êtes pressé, vous pouvez sortir, monsieur, c'est aussi simple. Hein. Moi, je ne retiens personne ici, vous savez. Les gens viennent de leur propre gré, ils ont la chance de ne rien payer et ils repartent également de leur propre gré. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de séance de cinéma, je le dis à votre intention, monsieur, qui baissez les yeux maintenant. Il ne s'agit pas de séance de cinéma, il s'agit d'un séminaire ouvert. Alors, ça vous déplaît peut-être, mais tant pis. Donc, je continue. Donc, le film que vous allez voir ce soir, et j'y viens, Moi, un noir de Jean Rouche, est un documentaire fictionnel. Comment dire les choses autrement ? À la différence du film de Flaherty, où en effet, un casting, comme on dit aujourd'hui, avait sélectionné un pêcheur, une femme, un enfant, et les avait combinés dans une famille de cinéma, là, nous avons affaire, au contraire, à des personnes réelles qui vont jouer leur propre rôle. Mais qu'est-ce qu'une personne réelle qui joue son propre rôle ? C'est quelqu'un qui change de peau, ou de place, ou de statut, ou de forme, et donc qui s'introduit lui-même dans un processus créateur qu'on peut qualifier de fictionnel. Il est intéressant de relever que l'homme d'Aran de Flaherty est passé, et souvent passe encore, comme une sorte de modèle du cinéma documentaire, alors qu'en effet, il n'y a guère que les vagues, les poissons et les éléments, les tempêtes, qui soient véritablement documentaires dans ce film. Voilà. Mais ce que j'essaie de raconter, c'est cette histoire-là. C'est comment le cinéma altère, transforme ce qu'il filme en une autre chose, en une autre dimension, qui est celle qui permet d'accueillir des spectateurs. Bon, le monde de l'information n'est pas véritablement fait. On peut rêver en lisant le journal, bien sûr, ça peut nous arriver, mais ce n'est pas vraiment le but de l'opération. Dans un film, on rêve toujours. Voilà. Et donc, quelle que soit la réalité représentée, la part d'investissement imaginaire du spectateur est considérable. Alors, on en arrive au film de Jean Rouche, Moi, un noir. C'est un film de 1959. Cette date est une date importante. Elle est importante dans l'histoire du cinéma, mais elle est importante aussi dans l'histoire de France ou dans l'histoire de l'Occident, parce qu'on est encore en pleine guerre d'Algérie. On est au lendemain de la défaite de la France en Indochine. Dien Bien Phu n'est pas très loin. Il va en être question dans le film, d'ailleurs. Bon, l'empire colonial français se fissure, commence à vaciller sérieusement. Le film se passe à Abidjan, dans un faubourg d'Abidjan qui s'appelle Trècheville. Il est question donc de la présence française, de l'occupation ou de la colonisation française dans cette ville. Et le titre « Moi, un noir » est à lui seul une sorte de manifeste. Voilà. Un noir prend la parole et dit « moi », c'est-à-dire « je ». Voilà. Et ça, en 59, on s'en souviendra peut-être pas pour ceux qui existaient déjà à ce moment-là, mais en tout cas, c'est considérable, c'est un événement important. Le fait que le titre commence par « moi », affirme une subjectivité, une force, une demande subjective, une insistance subjective. Les personnages que vous allez voir dans ce film sont des personnages qui ont une âme, et rêvent, imaginent et inventent le monde à leur manière. Et c'est ça qui va nous être raconté. Quelques mots sur la manière dont le film a été fait, puis après je laisserai la parole au film et au noir. Jean Rouche connaissait ce petit groupe de dockers, de taximans nigériens exilés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et il a travaillé avec eux, tout simplement, en leur demandant de lui raconter comment ils vivaient. Voilà. À partir de ces récits, Rouch a composé ce qu'on pourrait appeler un scénario. Donc, dans le cinéma documentaire, il y a des scénarios. Et ce scénario, il l'a tourné avec les personnes mêmes qui lui avaient raconté leurs histoires, qui sont devenus donc les personnages et aussi les acteurs de ce film. La chose importante, et sur laquelle on reviendra après la projection, c'est que en 59, il n'est pas encore possible dans le cinéma d'enregistrer les voix, les dialogues en son direct, c'est-à-dire en son synchrone avec la caméra. On peut enregistrer des sons, et il y en a beaucoup dans le film, vous le verrez, mais ce sont des sons qu'on enregistre séparément, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas synchronisés, des sons d'ambiance, comme on dit. Hein, voilà. Parce que le développement extrêmement inégal du son par rapport à l'image a fait que ça n'était possible que quelques mois plus tard, en 1960, et d'ailleurs, en grande partie, cet avènement, on pourrait dire, de la synchronisation entre image et son à la prise de vue est en grande partie dû à Jean Rouch lui-même qui, sans doute instruit par Moulin Noir, a ressenti fortement la nécessité de fabriquer une caméra légère portable, 16 mm, hein, l'éclair coûtant. Rouch a travaillé avec M. Coutant, donc ingénieur. Et donc, ils ont fait ensemble cette caméra qui, après, a eu un succès mondial. C'est la caméra que tous les reporters ont utilisée, que les journalistes ont utilisée énormément, et beaucoup de cinéastes aussi. Et donc, cette caméra a permis, pour la première fois, de se synchroniser avec un magnétophone, un Agra, qui enregistrait le son. Et bande d'image et bande son défilaient à la même vitesse. Hein, ce qui faisait que la synchronisation était assurée de façon parfaite. Avant, ça n'était pas possible, sauf en studio. C'est ce que je développais la dernière fois. En studio, oui, ça a toujours été possible. Dès 1929, on a pu faire du son synchrone en studio, mais au prix d'installations importantes, lourdes, chères, bien sûr. Ce qui fait que le son synchrone en studio a été, de 1929 à 1959, pendant 30 ans, pratiquement réservé aux comédiens professionnels. À ceux qui jouaient dans les studios. Dans les studios, on n'amenait pas les Noirs d'Abidjan pour jouer leur rôle. On faisait faire ça par Signé Poitier ou quelque autre acteur noir. On était avec des professionnels qui maîtrisaient leur métier, qui étaient capables de jouer, etc. Parce que les équipements coûtaient cher, les techniciens coûtaient cher, l'industrie coûtait cher, tout simplement. Et donc, pendant longtemps, le son direct a été le son des comédiens. Alors, je n'ai rien contre les comédiens qui sont absolument, enfin, surtout les Américains. Bref, c'était très bien, mais ce n'était pas la voix du peuple. Voilà. Alors là, dans Moulin Noir, vous n'allez pas non plus entendre la voix du peuple au sens où elle aurait été enregistrée en même temps que les images, mais vous allez l'entendre dans un doublage, en quelque sorte, que Jean Rouch a mis au point, qu'il a imaginé et mis au point, et qu'il a appelé le commentaire en direct. Alors, je le dis rapidement, le film monté est projeté aux personnages qui jouent dedans. Les mêmes sont dans la salle et sur l'écran. Et pendant la projection, on enregistre avec des micros, bien sûr, les commentaires qu'ils font à leur propre présence sur l'écran. Alors, ces commentaires sont parfois des commentaires narratifs, Baruganda raconte ce qui va se passer, il est même en avance sur le montage du film parce qu'il se souvient des scènes qu'il a tournées, évidemment, et d'autres fois, tout à fait spontanément, l'un ou l'autre se double, c'est-à-dire tente de retrouver les mots qu'il a prononcés sur le tournage et qui n'ont pas été enregistrés ou qui ont été enregistrés en son témoin, comme on dit, c'est-à-dire d'une manière non utilisable. Et voilà. Et donc cette bande-son retrouve quelque chose de l'idée du direct, mais après coup, dans la salle de cinéma. Alors je reviendrai sur tout ça après la projection. Bonne projection. Bien, donc je vais lancer quelques pistes pour essayer de caler les questions que ce film pose. D'abord, comment ne pas remarquer immédiatement après le mot fin que c'est un film extrêmement ludique. Voilà, c'est probablement un des films les plus je sais pas, déconstruits, défaits, refaits. Bon, voilà, un film qui explose de tous côtés, hein, aussi bien du côté de l'image que du côté du son, et qui est animé, si je puis dire, par quelque chose comme une sorte de liesse. Voilà, il y a une jubilation dans ce film, y compris dans les moments où le personnage principal, Umaru Ganda, dit que la vie est triste, qu'il aimerait avoir ce qu'il n'a pas, etc. Voilà, même dans ces moments-là, qui sont des moments de critique sociale, on pourrait dire, où quelque chose de la condition du travailleur exploité et de l'émigré se manifeste avec des mots très crus, très, très précis, très durs, même dans ces moments-là, il y a un ressort que j'entends dans la manière de parler d'Umaru Ganda, un ressort qui dit que voilà, il y a une force de vie, il y a quelque chose, ça, une libido, alors ça qui déborde dans tout le film. Bon, voilà, il y a tout ça. Mais c'est pas seulement, comme on disait autrefois, sur le plan des contenus, ça se passe, ça trame complètement le film. Et on peut parler là d'un travail sur les signifiants qui opère aussi bien du côté de l'image que du son, je le disais, puis je vais essayer de décrire un petit peu ce travail. Vous avez remarqué que ce film comporte un nombre de plans extraordinaire. C'est un film hyper découpé, hyper monté. Il y a très souvent des plans très courts. La plupart des situations sont filmées de plusieurs axes à la fois, dans une sorte d'orgie, le mot n'est pas de trop, d'orgie de découpage. Bon, dans les boîtes de nuit, le combat de boxe, enfin divers moments, et même le combat tout court d'ailleurs, sont découpés d'une manière hyper virtuose. Et là, comme on l'avait avec par moments dans L'homme d'Aran, comme on l'avait également dans L'homme à la caméra de Dziga Vertov, on est obligé de constater que le manque ou l'absence ou l'impossibilité d'enregistrer le son en direct libère le travail de l'image. Voilà. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, n'a pas pu se retrouver complètement dans les années qui ont suivi, dans la mesure où le son, je l'ai dit déjà, ben le son est plus lourd que l'image. Le son est plus lourd, il résiste, il est plus lent, hein, la vitesse du son est nettement inférieure à celle de la lumière. De tous côtés, nous avons du corps, de la physique, de la matière dans le son et du virtuel, voilà, de l'écume, de la transparence, si j'ose dire, de l'immatérialité dans l'image. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui autorise que du côté de l'image, de la bande image, il y a cette liberté de montage incroyable. On peut, sans risque de se tromper, affirmer que si le film avait été tourné en son direct, comme sans doute Rouch aurait rêvé de le faire, il ne pouvait pas le faire techniquement, mais il aurait rêvé de le faire, alors je crois que ce montage eût été impossible. Voilà. Et que disons, le fait que l'image ne soit pas enchaînée en quelque sorte au son, qu'elle en soit libre, eh ben, ça donne voilà, ce côté incroyablement virtuose qui fait que voilà, le rêve d'un montage absolu se manifeste à chaque instant. Alors, du côté de la bande son, donc, je le redis, il n'y a pas dans ce film de son direct. Il y a des sons, des musiques, des bruits, des rumeurs qui sont enregistrées bien sûr sur les lieux, dans les rues d'Abidjan ou à la Goumbé. Bon, mais ces sons sont des sons d'ambiance. Donc, c'est quoi un son d'ambiance? C'est un son qui évidemment restitue l'événement sonore qui est enregistré, clairement, mais le restitue indépendamment de la vitesse de défilement de la pellicule dans une caméra et donc par conséquent sans aucun synchronisme. Pour ceux d'entre vous qui ont l'œil exercé, on peut remarquer par exemple que quand les musiciens de la Goumbé jouent, on entend bien sûr le son de leurs instruments, mais ce son n'est pas synchrone. On voit bien que les baguettes qui sont tapées sur les calebasses, ne rendent pas un son exactement synchrone. C'est un son global, si on peut dire, un son synthétique. Alors évidemment, l'absence de son direct a fait que le tournage de ce film a été en quelque sorte sinon muet, parce que des paroles évidemment ont été prononcées et même sans doute enregistrées là aussi en ce qu'on appelle en son témoin, c'est-à-dire en son non synchrone, je le répète, ben on peut dire que néanmoins, les paroles, les phrases, les bruits n'ont pas pesé d'un grand poids au moment du tournage. Voilà. C'est, je le répète, ce qui explique cette virtuosité du montage. Et puis, le film monté, Rouch le projette à ses acteurs, qui sont aussi des personnages. Et là, il a cette idée qu'il avait déjà expérimentée dans un film antérieur qui s'appelle Jaguar, que peut-être vous avez vu, qui est un film magnifique et que j'aurais peut-être pu montrer à la place de celui-là. Mais enfin, voilà, les deux sont extraordinaires. Dans Jaguar, on a aussi, peut-être pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire du cinéma, l'expérimentation de ce commentaire en direct qui consiste donc en effet à enregistrer ce que les personnages du film disent, non pas au moment où ils ont été filmés, mais au moment où ils se voient projeté sur un écran. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça indique, sans que j'ai besoin d'insister, ça indique une opération de dédoublement, bien entendu. Au fond, Umaru Ganda est deux, chacun est deux. Il est tel qu'il est filmé sur l'écran, tel qu'il est monté sur l'écran, puis il est tel qu'il est là en train de voir le film dans la salle. Et cette duplicité ou cette dualité, évidemment, va entraîner un effet d'étrangeté constant à l'intérieur de la bande-son que vous avez évidemment constaté, puisque, au fond, cette bande-son est flottante. D'abord, elle est composée, évidemment, de plusieurs voix, même si celle d'Umaru Ganda domine largement, mais surtout, elle est composée de plusieurs registres. C'est-à-dire que, par moment, évidemment, cette voix double, hein, post-synchronise, comme on dit, les paroles avec plus ou moins d'exactitude, et parfois même aucune exactitude, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Donc on a affaire à une synchronisation aléatoire, et donc qui opère elle-même une opération de dérive. C'est comme si le son roulait au fond à sa propre vitesse et que par moments ça coïncide avec l'image et à d'autres moments ça ne coïncide plus avec l'image. Et donc le spectateur est invité sans cesse, et confronté plutôt sans cesse à cette vacillation, on pourrait dire, de la synchronisation qui fait que à la fois, par moments, les voix viennent des lèvres, des bouches, du corps filmées, et par moments, elles viennent d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que la bouche est fermée, celle qu'on voit sur l'écran, mais la voix est là. Donc ça devient alors soit une voix intérieure, soit une voix étrangère, une voix autre. Et donc, je décris très sommairement ce qui constitue la richesse extraordinaire de cette bande-son, probablement une des plus belles de l'histoire du cinéma, c'est que, tout simplement, Chaque voix, chaque sujet, chaque moi est porteur de plusieurs registres. Voilà. Alors aussi bien d'une manière performative, c'est-à-dire en anticipant sur l'histoire, Umaru Ganda à de nombreuses reprises, peut-être parce qu'il a vu le film avant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait donc parce qu'il l'a joué avant. Et donc, on sait quelque chose. Il y a mille moments où c'est comme ça. À un certain moment, il se lave les mains avant d'aller déjeuner. Et puis, il dit qu'il va se laver les pieds aussi. Mais les pieds ne sont pas encore filmés. Ils vont être filmés quelques secondes plus tard. Donc, il y a un jeu de poursuite très, très étrange et très déréglé, qui ne se règle jamais vraiment, hein, entre bande d'image et bande son. Et de même, un jeu de poursuite entre, au fond, ce que Umaru Ganda fait coïncider ou tente de faire coïncider avec son image et ce dont il se libère. À de nombreuses reprises, vous l'avez entendu, ce personnage devient narrateur. Il raconte le film, il raconte ce qu'il y a dans la tête de chaque personnage, dans la sienne et dans celle des autres. Donc, il intervient. Alors là, on peut le dire en toute certitude, comme jamais ça ne se serait passé sur le tournage si ça avait été en son direct. On n'imagine pas un tournage dans lequel les personnages, après avoir dit trois mots pour acheter des doigts de cola ou commenter, dire ben, « allons nous coucher sur le trottoir », se mettent aussi à commenter ce qu'ils ont dans la tête, etc. Vous comprenez bien que la méthode, le système mis en place par Rouch permet littéralement de faire exploser, hein, au fond, les limites de ce que nous appelons personnage au cinéma. le cinéma contemporain, depuis quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, est un cinéma qui, disons, à quelques exceptions près, se détourne de l'explication dialoguée. Voilà, les dialogues, les paroles des personnages deviennent de plus en plus rares. Quelques films importants sont frappés de mutisme. Et donc, on considère que c'est au spectateur, au fond, de parler mentalement, intérieurement, à la place des personnages qui n'ont en gros plus grand-chose à dire et surtout qui ne disent pas. Voilà. Et là, on a exactement tout le contraire. Le fait que la parole n'ait pas pu être enregistrée en son synchrone et en direct pendant le tournage libère la parole, au contraire. Hein? Et vous avez cette sorte de d'effervescence de la parole qui va occuper le terrain de l'image, si j'ose dire, beaucoup plus que ça n'aurait pu être le cas si la parole avait été enregistrée en son direct, en son synchrone, au moment du tournage. Donc là, on a une sorte de torsion, hein, qui devient intéressante, qui devient étrange. On s'aperçoit que le lien entre image, bande d'image et bande de parole est un lien complexe. Comment dire, l'effet de double libération qui se manifeste dans ce film, du côté de l'image, je l'ai dit, du côté de la parole, je suis en train de le dire, cet effet, rare dans l'histoire du cinéma, je vous l'accorde, est quand même quelque chose d'extrêmement stimulant. Hein. On a là affaire à quoi? À une création en train de se faire. C'est le deuxième point que je voulais souligner. Le dispositif imaginé par Rouch et mis en œuvre par ces acteurs, oui, appelons-les des acteurs, des personnages acteurs, si vous voulez, ce dispositif aboutit en fait à constituer la bande image comme passé et la bande son comme présent. C'est très simple. Hein. Il voit, comme nous spectateurs, l'image projetée sur l'écran et il la commente au présent. Voilà. Et donc ils en savent plus qu'elle, ils savent ce qui s'est passé avant ou après. Voilà, il rit ou il sourit à propos de l'image qui est en train de se dérouler. Et donc ça en fait véritablement une image mise à distance, si j'ose dire. Et ce film est plein d'humour, il est plein d'autodérision, il est plein de blagues d'une certaine manière. C'est pourquoi je crois que c'est le film un des films les plus gais fait par un blanc avec des noirs. Je pense que c'est ne pas y en avoir beaucoup et que c'est plutôt les films des noirs qui sont gais en général. Mais alors là, c'est voilà, Rouch a touché ça. Et donc on a un double registre temporel. Le registre du film déjà monté, donc qui n'est plus en train de se faire. Nous ne sommes plus, nous spectateurs, dans la place habituelle qui est la nôtre au cinéma, où nous réactualisons le film fini et nous en faisons un film en train de se dérouler avec nous, dans notre propre temporalité, dans notre propre présent. Le spectateur ramène le film au présent, toujours, bien sûr. Mais là, nous sommes spectateurs d'un film dont les spectateurs acteurs l'ont considéré comme étant une trace sur laquelle il pouvait intervenir. Donc, ce que nous voyons sur l'écran est une trace. Et évidemment, une trace est au passé. Alors, cet effet de présent renforcé, évidemment, est quelque chose qui va rendre au fond, on pourrait dire que si ce film tourné comme une fiction, hein, tourné comme une fiction, avait été doté de paroles enregistrées en synchrone, il aurait été je dis pas sans intérêt, mais enfin beaucoup moins intéressant que ce que nous voyons là, beaucoup moins intéressant. Voilà, parce qu'on aurait eu au fond une histoire, sinon classique, du moins relativement maîtrisable par un spectateur, dans laquelle voilà, on voit un type qui travaille, ses copains, ensuite il s'amuse, etc. Et là, on a quelque chose qui est tout à fait différent. On a une sorte de transformation du film tel qu'il est donné dans la bande d'image par une intervention constante des acteurs dans la bande son qui le recrée au présent. Et la preuve de ce que je dis, enfin, je pense que vous l'avez tous ressenti, mais la preuve de ce que je dis, c'est précisément les moments où une autre voix intervient dans le film, qui est la voix de Jean Rouch. Alors Jean Rouch, grand narrateur, grand charmeur, avec une voix magnifique, qui prend en charge l'histoire. C'est son film, après tout. Il prend en charge l'histoire. Eh bien, Rouch nous dit lundi, les rêves, etc. Et Umaruganda arrive tout de suite après et dit la même chose. Alors là, on a bien quelque chose qui nous indique que c'est comme si les personnages acteurs confrontés au film déjà fini, donc maîtrisé par Rouch, un film sur lequel ils n'avaient plus aucune prise en quelque sorte. Ils en avaient au niveau du tournage, au niveau du scénario, ils n'en avaient plus au niveau du montage, parce que le film leur arrivait déjà monté, eh bien, le reprenaient en charge, se le réappropriaient par leurs interventions, leurs commentaires transversaux, parfois synchrones, parfois pas synchrones, qui finalement refabriquent quelque chose du film qui est à eux et qui n'est plus à Rouch. Voilà. Et donc on peut dire que, pour synthétiser, qu'il y a là la lutte entre la voix du maître, si j'ose dire, maître dans le sens le plus révérencieux que je peux utiliser, et puis la voix des sujets. Et les sujets vont en effet reprendre le film à leur compte et d'une certaine manière, leur voix va s'imposer. Ce dont on se souvient évidemment dans ce film, c'est plutôt de la voix de Umaruganda que de celle de Jean Rouch qui pourtant est une voix magnifique, une voix de cinéma, etc. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième niveau que je voulais souligner. Bien sûr, il y a une troisième dimension qui est très importante, c'est que pour l'essentiel, ce film est parlé en français. Ces voix qui se multiplient, qui se démultiplient, qui se divisent, qui se redivisent, qui font à la fois apparaître la complexité du sujet, de chaque sujet, notamment du sujet Umaruganda, Edward G. Robinson, dans ses rêves, dans ses désirs, dans ses contradictions, sa conscience de ses limites et de ses impossibilités, mais aussi dans son histoire, hein. Soldats français en Indochine, ayant tué du Viet, ayant eu le goût du sang. Cette scène est tout à fait magnifique. Bon, alors voilà que cette voix multiple, cette voix éclatée qui se manifeste tout au long du film, voilà qu'elle parle notre langue. Et donc que notre langue, enfin la langue qui nous est commune, je suppose, celle dans laquelle je m'exprime, le français, voilà que cette langue est à son tour transformée. Alors bien sûr qu'elle est transformée parce que les parlés africains ou les parlés nigériens ne sont pas tout à fait ceux de l'Académie française, certes. Néanmoins, elle est explosée ou éclatée, cette langue, tout simplement parce qu'elle se trouve réinvestie d'une puissance créatrice, d'une puissance de désir qui se manifeste tout au long du film. Je disais, c'est un film qui déborde de libido, mais aussi précisément dans la parole, et aussi précisément dans la manière incroyablement effervescente dont cette parole se disperse. Voilà. Alors, deux choses là. Premièrement, l'idée que la subjectivité qui s'exprime, enfin qui se condense sous la formule « moi un noir », cette subjectivité est montré dans le film comme en expansion, quelque chose qui est puissant, qui rayonne, hein, pas quelque chose de fermé, quelque chose d'extrêmement ouvert. Alors bien sûr, en plus, ce sont des émigrés, ils viennent du Niger, donc ils ont déjà un statut qui va être celui de beaucoup d'Africains ensuite, après la soi-disant décolonisation en France. Voilà, donc quelque chose d'une anticipation, là, du temps historique se manifeste. Mais ce qui me paraît aussi tout à fait frappant, c'est que cette puissance de la parole qui s'affirme là est aussi une réappropriation de la langue française. Ce n'est pas seulement le film qui est repris à Rouch par ses acteurs, c'est aussi la langue qui est reprise et qui est rejouée. Et là, quelque chose se passe de très troublant, parce que je disais tout à l'heure, les acteurs sont dans la salle. Comme nous, spectateurs, exactement comme nous. Ces voix qui viennent de la salle vers l'écran et qui vont occuper le film, occuper là dans le sens d'une occupation du terrain, ces voix, elles viennent de là où nous sommes. Nous sommes à côté d'eux, ou ils sont à côté de nous. Eux et nous sommes dans des situations homologues, spectateurs les uns et les autres. Nous sommes spectateurs bien après eux, mais ils ont été spectateurs avant nous, mais spectateurs, eux et nous. Voilà. Et donc, dans ce, Oui, cette réinvention, cette réappropriation, cette reprise en main, cette reprise en charge, cette reprise en langue du film d'un côté et de la langue française de l'autre, il y a quelque chose qui nous vise, nous, spectateurs aujourd'hui, français, blancs, occidentaux, de sourds, qui nous vise à notre place de spectateur. Voilà que de notre place de spectateur, blancs, occidentaux, français, portant cette histoire, qu'on le veuille ou non, voilà que ces voix viennent se lever comme si quelque chose en nous était aussi à même de les lancer. Voilà. Donc, ce qui est travaillé, si je puis dire, fortement, c'est la place d'énonciation. Qui parle dans ce film? Qui parle? Eh bien, le moi noir, c'est moi. C'est vous. Et c'est ça l'opération subversive très puissante que le film opère, qui n'est pas une opération abstraite, qui est quelque chose qui se trame, c'est ce que je disais au début, à travers le jeu des signifiants, à travers cette indépendance de la parole qui se manifeste à chaque moment, à travers cette liberté du montage. Alors quelque chose là se trame qui nous renvoie à notre propre place, à notre propre histoire, et donc nous met aussi à la place juste, si je puis dire. Voilà, c'est ce qui caractérise ce film pour moi, c'est que la place du spectateur y est définie comme étant la juste place. Voilà. Celle d'où on peut voir à la fois ce qu'il en est de l'intériorité des sujets filmés, de leur rêve, la séquence du rêve érotique est absolument sublime. Bon. Je veux dire, donc, comment dire la chose? Mais jamais on ne voit les choses comme ça. Jamais, jamais. Voilà. Parce que c'est à la fois d'une grande simplicité et d'une grande folie. Voilà, quelque chose déborde là aussi. Le statut des personnages les uns par rapport aux autres, c'est un aspect que je n'ai pas, développé. Bon, extrêmement mystérieux. Dorothy d'Amour Eddie Constantine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils s'aiment, ils s'aiment pas, ils font semblant, ils jouent avec, ils s'amusent l'un de l'autre, ou au contraire, ils jouent le jeu du film. Impossible de savoir. Il y a de l'indécidable qui se manifeste à de nombreuses reprises dans ce film, et l'indécidable, c'est le lieu où le spectateur va se trouver saisi. Hein, je suis saisi par l'indécidable, je ne suis pas saisi par ce qui peut être tranché, défini, déterminé, cartographié. Je suis saisi par la marge, par la zone d'incertitude qui entoure les choses. Alors, dans ce film, cette zone est considérable. Alors voilà, ça m'intéresse évidemment énormément, mais je voudrais conclure, avant de vous passer la parole, par cette remarque que la question coloniale traverse le film d'une manière évidemment dite pas discrète, c'est pas le mot qui convient, d'une manière subtile, disons, mais elle le traverse. Alors il y a la prison, il y a la police, il y a l'argent, il y a les maisons, il y a même les blancs, il y a même l'Italien qui a été doublé par mon ami Hamid Jarrouche, aujourd'hui mort, Enrico Fulchignoni, qui était le représentant d'Italie à l'UNESCO et donc un grand cinéphile. Et Fulchignoni dévide ce chapelet d'injures formidable qui définissent, à mon avis, très bien la place de l'Italie dans une situation de ce genre. Donc tout ça est très joyeux. Bref, tout ça pour dire que là, on est confronté à quelque chose. Je pense que c'est un des très rares films qui montre ce qu'il en est de la situation coloniale en Afrique avant les indépendances. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est. Alors, de ce point de vue-là, ce film est hyper précieux parce que alors, il documente, si vous voulez le terme, si vous tenez au terme, il documente ce qu'il en est de la présence française à Abidjan et à Trècheville. Je rappelle qu'il y a un plan magnifique où on voit le plan de Trècheville. Et vous avez vu comment est fait ce plan. C'est le plan d'un camp de concentration, n'est-ce pas? Les rues, d'ailleurs, portent des numéros. Voilà. Bon, là, je ne sais pas quelles sont les raisons de cette numérotation des rues, mais il est certain que ça donne l'impression d'un quadrillage administratif, voire policier. Bon. Alors, donc, voilà. Cette présence française est là tout le temps. Hein, elle occupe. Et justement, on pourrait, en forçant un peu la note, je veux bien, mais on pourrait interpréter la révolte des acteurs contre le maître rouge, la reprise en charge du film par leur voix, par leurs paroles, aussi, bah, tout simplement, comme une affirmation de soi qui vient contrer, hein, l'ombre coloniale. Voilà, c'est comme ça que je dirais. On va peut-être vous passer un micro, si vous le désirez. Merci.
La question que je me pose, c'est est-ce que la bande son est premièrement scénarisée ? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il n'y a eu qu'une seule projection ou est-ce qu'il y a eu tout un travail et ensuite un montage? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une continuité, mais ce n'est peut-être pas évident.
Oui, alors écoutez, Rouch n'est plus là malheureusement pour nous éclairer sur ce point. Et c'est vrai que il n'a pas parlé dans le détail de tout ça. Je crois qu'il y a eu deux enregistrements. Mais pour autant qu'on puisse se fier à son oreille... Il n'y en a qu'un dans le film, voilà, me semble-t-il. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a eu des morceaux rajoutés. Par exemple, il est probable que Filquignoni n'était pas dans la radio d'Abidjan au moment où le film a été projeté et que son intervention en italien a été intégrée plus tard. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour ce qui est de la voix d'Oumar Ouganda, pour moi, elle est séance tenante. Voilà. Elle est ici et maintenant dans la séance. Et c'est cet effet de présent dont je parlais qui est tout à fait extraordinaire et qui fait que le film, alors qu'il est fini, reprend un futur, en quelque sorte, devant nous. Voilà. Je ne crois pas que ces interventions aient été scénarisées. Je crois que le principe de Rouch, c'était précisément que le commentaire se fasse à chaud, si j'ose dire, d'ailleurs, dans une improvisation totale. Alors, au début du film, vous vous souvenez, Rouch dit « ce film a été improvisé » ou « nous avons improvisé ce film ». Bon... Il est clair que le film qu'on voit n'est pas improvisé, qu'il est en grande partie scénarisé, médité, calculé, bon, même si en effet tout vient d'eux, tout vient des Nigériens d'Abidjan et peu de choses sans doute ne viennent de Rouch lui-même, ça c'est certain. Néanmoins, ce qui est improvisé, alors là clairement, c'est la reprise en parole, par les comédiens personnages du film. Voilà, ça, je crois qu'on est dans l'improvisation. Et que c'est ce qui donne aussi, me semble-t-il, et là, notre oreille ne nous trompe pas non plus, l'écoute de cette liesse, de cette effervescence, de cette jubilation. Voilà, hein. Il y a une jouissance qui apparaît, et qui est une jouissance gaie. Toutes les jouissances ne le sont pas, celle-là l'est.
Je voudrais savoir qui a choisi le titre du film. Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, mais je n'ai pas fait attention.
Ah ben là, je pense que c'est Jean Rouch.
Oui, oui. Il n'a pas. Oui, seul, d'accord.
Ah oui, là, je suis. Oui, parce que vous l'avez remarqué, le film porte deux titres en vérité. Moi un noir, c'est écrit en gros, puis dessous, entre parenthèses, il y a Trècheville. Ouais. Et quand Oumar Ouganda présente le film, après que Rouch offre les présenter, Oumar Ouganda dit. Trècheville, en parlant du film, voilà. Donc, le titre de travail, c'était sans doute Trècheville. C'est le titre qui est resté dans la tête des acteurs ou des personnages, notamment de Oumar Ouganda. Et puis, le film s'est appelé, à mon avis, de manière fort juste, je le disais au début, « Moi, un noir ». C'est un titre formidable.
Je voulais ajouter quelque chose. En vous écoutant après le film, j'ai vu le film une deuxième fois très vite et en mieux. Mais moi, je vais vous dire, ce film me laisse un énorme malaise. Cette jouissance dont vous parlez, cette libido, moi, je vois derrière Thanatos. J'ai l'impression que c'est le rire, le plaisir du désespoir, c'est-à-dire. Ce qui, moi, c'est vraiment, je me sens mal à l'aise avec ça, et que derrière ce sourire et même l'effervescence des dialogues qui sont
très gai quand même dans l'ensemble.
Oui, oui, mais il y a tout le poids de cette histoire qui se renouvelle, quoi, en fait, de cette histoire de je vais pas parler des classes pauvres, etc. Je vais pas faire. Quelque chose de politique, mais l'errance pour trouver du travail et tout.
Oui, mais alors vous avez raison de signaler ça, madame. Néanmoins, il faut observer que la voix des Noirs ou la parole des Noirs dans le film constate la pauvreté, la misère, la tristesse, le manque, mais je dirais pas s'en divertit, mais la transforme en énergie. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Et ça arrive du début à la fin. Alors je vous donne un exemple très simple. Tout le monologue final, qui est un monologue d'Oumar Oganda, où il parle de son expérience de la guerre, etc. Il y a une phrase qui revient, que Godard avait soulignée, qui est devenue une phrase un peu fétiche pour nous tous. Tout cela n'est rien, petit Jules. Voilà, tout cela n'est rien. Alors oui, tout va mal, la mort, la guerre, la France me reconnaît pas, mon père m'a congédié, j'ai pas de femme, j'ai pas de maison, j'ai rien. Tout cela n'est rien, petit Jules. Voilà. Et on est dans une contradiction qui est la nôtre, qui est celle de la plupart des êtres qui vivent sur cette terre, qui sont en général, nous sommes tous des êtres de souffrance, et en même temps, quelque chose en nous dit tout cela n'est rien. Voilà. Donc là, cette dialectique, enfin, en tout cas, cette duplicité est active. Il y a une autre chose, peut-être, qu'on peut souligner, c'est que une séquence dément votre interprétation. C'est la séquence du rêve de ce qu'ils étaient au Niger. Séquence incroyable. C'est une sorte de flashback, mais un flashback imaginaire. Alors évidemment, un flashback imaginaire, ça devient très troublant. Et on voit un gamin en train de rire, et Oumar Oganda dit « ça c'est moi quand j'étais petit ». Et puis après, il revoit un autre, un jeune homme alors extrêmement balèze, et dit « ça c'est Tarzan ». Et donc entre les deux, entre le gamin et Tarzan, il y a une différence de 15 ans. Pourtant, ils sont ensemble en train de jouer dans cette lagune du Niger. Bon. Voilà une séquence qui présente un état de bonheur, alors paradisiaque si vous voulez, en tout cas voilà, la joie, le jeu, on s'amuse, l'enfance, l'innocence, tout ce qu'on voudra, tous ces thèmes-là, mais qui vient en quelque sorte à l'intérieur de toute cette scène plus dure, plus violente, plus où les contradictions sont plus manifestes, mais qui continue de l'éclairer. Voilà. Donc quelque chose dans le film se dérobe à la critique sociale. Et je dirais volontiers, bon, pour reprendre une opposition classique entre l'analyse, disons, marxisante, à laquelle j'adhère en grande partie d'ailleurs, mais bon, qui veut que en effet les sujets soient déterminés par les conditions sociales, pour le dire très rapidement, s'oppose une autre logique qui aura été illustrée par Foucault par exemple, où on se dit mais aussi du côté des assujettis, des aliénés, des esclaves, si vous voulez, quelque chose d'une possibilité de vivre, de rêver, d'aimer, de désirer existe. Voilà, l'aliénation n'annule pas ou n'abolit pas la dignité, la fierté, le désir, la dimension ludique de l'homme. Voilà. Et je crois que ce film nous redit ça, et peut-être que nous avons besoin aujourd'hui de savoir ça.
Oui, d'autant plus que ce qui a été dit comme structure du film sur l'usage de la bande-son va dans le sens d'une libération. Absolument. D'une reconquête. Et cette reconquête, en quelque sorte, à travers cette mise en récit qui vient parfois même changer un peu le sens de la mise en image, marque une espèce de métaphore de liberté, en quelque sorte, qui vient repousser les images de mort qui vous semblaient dominantes. Et d'ailleurs, tout cela n'est rien, petit Jules, en fait, n'était pas prévu dans la manière dont c'était filmé, où il devait commenter la manière dont
ça c'est une invention d'Oumar Oganda, bien sûr.
Et il décide de donner cette fin au film.
Voilà,
en fait,
tout à fait.
Ce qui...
Oui, enfin, il y a un autre exemple qui est majeur, c'est la manière dont les religions sont traitées. Parce que le Thanatos, je sais où il est, moi, le Thanatos, hein, il est du côté de la religion. Là, on peut dire que c'est quand même légèrement dynamité, si vous voulez. Parce que aller à l'église pour voir les filles, moi, je trouve ça formidable. Même Brassens n'y avait pas songé.
Je peux juste rebondir sur le même sujet. Moi, j'ai ressenti, c'était la deuxième fois que je le voyais, j'ai ressenti un peu la même chose que la dame, pas en termes de Thanatos, mais en termes de tristesse.
Oui.
J'ai été beaucoup plus profondément touchée que la première fois par la tristesse, je trouve, qui émane constamment des impossibilités concrètes, hors du rêve de la vie d'Oumar Oganda. Et justement, j'allais dire qu'à la fin, tout cela n'est rien, petit Jules, mais c'est Dieu qui le veut. Il le dit, ça. Et il y a la scène à l'église, mais il y a la scène à la mosquée qui est trop petite. Il prie que sur un petit mouchoir et il prie.
Oui, oui.
Et il prie et il demande à Dieu. Et je trouve que...
Enfin, après, il se moque un peu de ceux qui prient quand même.
Oui, mais il le fait quand même. Et je trouve que dans la dernière scène, il y a les deux. Et j'allais dire que ça correspond bien à la fois à l'aller-retour de la prise en main du film et à ce que vous appeliez la dérive. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'un rêve et il y a la dérive quand même, la soumission quelque part à quelque chose qui dépasse l'individu. Et j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, je ressens pas le film comme uniquement du côté de la libération
non,
et de la joie.
Non, vous avez raison, bien sûr. J'ai peut-être forcé le trait en disant les choses comme ça. Mais c'est vrai que, bon, pour moi, ce qui prime, là, je dirais, c'est la liberté de la forme, voilà, qui prime et qui traverse alors tout, voilà, et qui, pour moi, fait exploser les contraintes ou les cadres qu'on voudra. Alors, c'est vrai qu'il est, enfin, il est difficile. Une difficulté tient à ce qu'on voit ce film aujourd'hui et non pas au moment où il a été fait. Bon, pour beaucoup de films, ça n'a pas d'importance. Pour certains, ça en a une grande. Parce que nous sommes porteurs, nous, de toute cette histoire depuis 1959 et pas seulement avant 1959. Donc, ce que nous, spectateurs, avons inévitablement dans notre bagage, dont il est difficile de se débarrasser totalement dans une salle de cinéma, et une partie du travail du film devrait être de débarrasser le spectateur de son bagage pour l'embarrasser d'autre chose. Alors, voilà ce qu'est l'Afrique devenue. Hein, ce qu'est la présence occidentale en Afrique devenue, ça m'obsède quand je vois ce film. Je ne peux pas ne pas y penser, évidemment. C'est constamment là. Et il est vrai que pour certains films, dans l'histoire du cinéma, on peut affirmer qu'on ne pourrait pas refaire ce film aujourd'hui. Voilà. Ça, je peux le dire. Comme Pasolini avait constaté en 1975 ou en 1974 qu'il n'aurait pas pu refaire Acatone. Ce film avait été fait une fois pour toutes. Il devenait impossible de le refaire. Pourquoi ? Parce que le monde a changé. Les gens ont changé, les corps ont changé, les têtes ont changé. Voilà. Et on pourrait dire évidemment ça de la même manière à propos de Moi Noir. Donc là, on retrouve évidemment l'importance de la dimension documentaire sur laquelle je suis passé un peu rapidement tout à l'heure. Bon, bien sûr que là, quelque chose d'extrêmement précieux dans l'opération cinématographique se manifeste. Quelque chose de la coïncidence entre des paroles, des corps, un temps historique et des décors est saisie par le cinéma. Le cinéma saisit un ensemble de choses. Et c'est parce qu'elles sont ensemble qu'elles deviennent documents. Voilà. Séparées, elles n'ont plus cette valeur. Je crois que, bon, sans vouloir devenir une sorte de faire une sorte d'apologie extrême du cinéma, je crois que seul le cinéma permet ça. Voilà. Seul le cinéma permet ça, de saisir ensemble un état du corps, un état de la langue et de la parole, un état du monde ou d'histoire, un moment historique. Eh bien, c'est ça qui compte, évidemment, c'est ça qui est précieux pour nous tous. Voilà le sentiment. Oui, madame, vous aviez raison, et vous aussi. La mort est arrivée, sans aucun doute. Voilà.
Oui, mais après...
On peut toujours être sûr de ça. C'est une parole qui n'engage personne. On est tous d'accord. Mais voilà. Mais le film suspend, je l'ai déjà dit, je le redis volontiers. Chaque film, enfin en tout cas porté à un certain niveau de puissance, suspend cet inéluctable de la mort qui arrive. Alors là, nous savons que Rouche est mort, ces acteurs sont morts, mais l'Afrique, d'une certaine façon, est en grande partie, sinon morte, du moins abîmée terriblement, que la Côte d'Ivoire, par exemple, est dans un triste état, etc., etc., que Abidjan aussi, tout ça, nous le savons. Et pourtant, le film nous ramène quand même quelque chose d'un futur. C'est un film qui, je disais tout à l'heure, le film est au passé, mais le film, la bande-image plus la bande-son ne sont pas du tout au passé et restent quand même au futur. Alors, ça devient quoi ? Ça devient porteur d'une utopie. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que le cinéma porte une utopie. Il porte l'utopie de nous présenter plus tard ce qui s'est passé plus tôt, comme si c'était encore possible, puisque nous y participons, puisque nous en sommes.
Oui, d'autant plus, c'est peut-être là une des sources de tristesse, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors que ce film, évidemment, un réquisitoire est subtil, mais un réquisitoire contre la situation d'exploitation du colonialisme, etc., les images que nous allons connaître dans les décennies qui suivent jusqu'à maintenant sont autrement, plus désespérantes,
ah bah certes,
que celles que... Et c'est bien sûr une des sources de tristesse qui fait que c'est une utopie de ce qui aurait pu advenir, en quelque sorte, qui est portée par une situation de domination d'où l'espoir et d'où l'humanité, en quelque sorte, n'est pas exclue et renforcée par le récit qu'en fait l'acteur, le personnage principal.
Oui, oui, bien sûr. Et en même temps, il faut, je crois, ressentir que quelque chose de relativement universel se dit à travers la parole de Umar Uganda. Bon, l'argent, l'obsession du manque d'argent, le travail absurde, des sacs, des sacs, des sacs, bon, le manque de, j'irais dire, de minimum vital, une maison, un toit, un lit, bon, tout ça, nous le partageons complètement. Ça n'est pas réservé aux personnages du film et moins encore aux Africains. C'est le lot de... Voilà. Alors, c'est... L'africanité, si j'ose dire, est quand même très ponctuelle dans ce film. D'abord, il est traversé par les signifiants occidentaux. Hein, toute la mythologie hollywoodienne défile. Les personnages portent même des noms qui sont des noms de personnages de cinéma ou d'acteurs de cinéma. Ce film est tramé par le cinéma. Et donc le cinéma tel que l'Afrique se l'est réapproprié, ben, le cinéma est quand même une invention historiquement et culturellement datée en Occident. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc quelque chose d'un échange, entre guillemets, enfin, où le colonisé reprend à son avantage, au fond, hein, l'outil que le colonisateur a mis en face de lui. Bon, ça nous... Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, participe de cette opération où l'idée à la fois d'un destin et d'une révolte non seulement africain se manifeste. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le titre Moins Noir, j'ai tenté dans mon exposé de le renvoyer dans la salle et de dire Moins Noir, c'est chacun d'entre nous. Voilà. Alors, si on est capable de dire ça grâce au cinéma, c'est la dimension universelle ou universaliste du cinéma qui s'affirme.
C'est aussi moins un noir francophone, hein, comme tu le disais.
Ah, bah, donc, certes.
En plus, l'étranger, c'est vraiment l'italien. Pardonne-moi, Jean-Louis, mais c'est terrible. Deux fois, là.
Moi, j'ai choisi des films pour moi, bien sûr. Bien, bah, écoutez, on va peut-être... Ah, il y avait encore une question, pardon.
Alors, vous avez énoncé la thèse et l'argument principal de votre interprétation sous la forme de paradoxe. C'est le manque du son direct, la carence du son direct qui permet au film une telle liberté au niveau de l'image et au niveau de la reprise par les acteurs d'un espace qui aurait pu être consacré à la voix du maître. N'est-ce pas ? Je garde l'hypothèse avec tout ce qu'elle a de fécond et d'intelligent. Elle nous sert. Je voudrais changer un peu l'accent. Oui. Penser la coexistence entre la voix du maître et la voix du sujet en donnant plus d'importance à la voix du maître résiduelle qui reste. Donc, c'est, dans un sens, mon intervention, c'est un exercice de malveillance interprétative envers votre hypothèse.
Je vous en prie. Mais
je pense que dans le partage que le film instaure entre la voix de Rouche, qui est celle qui va cadrer ce qu'on voit, donner un peu le sens de ce qu'on voit, l'introduire au sein d'un constat sociologique. Il y a l'Afrique, elle vit un moment de migration. Ce film-là est un exemple de migration et qui va établir tous les rythmes du film, la division du film en quatre parties. Elle est rythmée et ponctuée par la voix de Rouche. Mmh. C'est Rouche qui établit le point d'ancrage fictionnel à chaque fois. Lundi, samedi arrive ceci, dimanche cela, et puis après, Uganda a un certain espace pour fabuler et pour reprendre le récit. Or, j'ai l'impression que si on regarde d'autres stratégies que Rouche a lui-même établies au long de son travail pour déstabiliser la voix du maître, il y a des films qui sont peut-être allés plus loin. Par exemple, dans le sens de ce qu'il a appelé la ciné-trans, un effort de construction de film de sorte à établir une sorte de conjonction, communion entre le cinéaste et le sujet qu'il filme. Mettre le cinéaste en phase avec le sujet qu'il filme. Et là, je pense que peut-être que le son direct a aidé à promouvoir cette mise en phase. Donc je pense que l'hypothèse, elle est féconde. Mais je ne sais pas si vous ne trichez pas en l'énonçant.
Bon, écoutez, peut-être, je ne sais pas trop. Non, en fait, vous me donnez raison. Vous avez dit la même chose que moi. non, vraiment. Oui, parce qu'en effet, avec le son direct, dans des films de Rouch où cet effet de ciné-trans peut se manifester, alors bien sûr, c'est dans le son direct que ça se manifeste d'abord. Et là, ça se manifeste de l'autre côté, si j'ose dire, de ceux qui sont les sujets du film. Eux, ils sont dans une ciné-trans. Rouch n'y est pas. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. D'autre part, il est probable, c'est une hypothèse, hein, bien sûr, mais il est probable que la segmentation du film en journée, qui probablement était déjà dans le scénario, mais le fait que ce soit la voix de Rouch qui pose ses têtes de chapitre, si vous voulez, il est probable que cette opération est postérieure à celle de l'enregistrement du commentaire en direct par les acteurs. Et que donc, ce que j'ai décrit comme une reprise en charge du film par les comédiens pourrait se traduire comme une reprise en main par Rouch du film que les comédiens lui avaient dérobé, en quelque sorte, ou en tout cas, dont ils avaient fait leur chose. Et je sens ce duel, si vous voulez, je le sens... précisément, et il faudrait revoir le film, là on aurait un DVD à notre horreur, à notre disposition, qu'on pourrait le démontrer sans peine, je sens bien que les interventions de Rouch, les mini-présentations de Rouch sont calées sur ce que Ouganda va dire tout de suite après. Voilà. Et que donc l'intervention de Gourdain est en quelque sorte première. Donc il y aurait un renversement de la place du maître et du sujet qui ne serait pas non plus sans étoffer ma propre thèse.
Il aurait pu supprimer la voix du maître. Hein. C'était une option possible.
C'est un choix.
Hein. Garder résiduellement la voix du maître.
Je suis bien d'accord avec vous. D'une certaine façon, ce film se passe de la voix de Rouch. Vous avez tout à fait raison. Et on pourrait faire l'expérience de... un peu idiote, mais enfin quand même, de le projeter en coupant les interventions de Rouch, le film ne perdrait rien, me semble-t-il, puisque on aurait toujours la chronologie des jours, on aurait toujours... Voilà. Donc là, quelque chose... Bon, mais moi, je dis tout ça non pas pour planter des flèches dans l'œuvre de Rouch, mais tout simplement parce qu'il me semble que c'est un film qui travaille beaucoup avec le spectateur. Et dans ce travail avec le spectateur, Oumar Ouganda en tant que personne, co-auteur ou interprète, ou Rouch en tant qu'auteur, réalisateur, compte beaucoup moins. Voilà, ce qui compte, c'est des signes à travers lesquels ça se passe, le jeu des signifiants à travers lesquels ça s'opère. Voilà. Donc, d'une certaine manière, j'ai appliqué dans le commentaire que j'ai fait de ce film, une méthode que, en général, j'essaie de ne pas utiliser, et malheureusement, je suis bien content de le faire de temps en temps, qui est de faire intervenir un savoir extérieur à ce qu'on voit dans le film pour l'analyser. Bon, c'est vrai que on peut imaginer qu'un spectateur particulièrement attentif et poreux puisse comprendre que le commentaire a été fait après coup, en direct, etc. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite quand on le dit et qu'on a affaire à la source elle-même qui est Rouch. Et c'est vrai que le fait de s'appuyer là-dessus donne inévitablement, donne à l'auteur réalisateur une place prépondérante que dans mes analyses j'essaie au contraire de faire disparaître. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas des réalisateurs pour faire des films, qu'il ne faut pas des auteurs pour les écrire. Je dis simplement que du point de vue de la place du spectateur, la place prépondérante de l'auteur est plutôt un inconvénient ou un leurre, voire un danger, qu'un bien. Voilà, c'est comme ça que je pense les choses. Je pense que le spectateur doit devenir lui-même, d'une certaine manière et sans démagogie, vaguement co-réalisateur, co-auteur, co-fabricant, co-interprète du film, que c'est ça qu'on appelle cinéma. C'est quand ça se passe effectivement entre la salle et l'écran. Et que donc tout n'est pas déjà joué au moment où le film commence, tout se joue pendant que le film se déroule. Et si tout se joue à ce moment-là, la place de l'auteur-réalisateur, qui est évidemment décisive, mais sa création, hein, pour reprendre la métaphore de Dieu, sa création vit à sa place.
Voilà, je voulais juste ajouter que si vous souhaitez recevoir un carton d'invitation pour l'avant-première Les Clés de Marseille, où j'espère qu'on n'entendra pas la voix de Jean-Louis Comolian maître.
Non.
Donc, vous remplirez le questionnaire que vous trouvez à la sortie, vous nous l'envoyez, comme ça vous recevez un carton d'invitation parce que c'est un mardi et que le centre est fermé. Voilà.